France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons, j'ai envie de dire encore une fois, mais c'est à juste raison, d'Ibn Khaldoun, ce penseur érigé maintenant au rang d'un penseur universel, avec une nouvelle biographie signée le professeur Mahdi Rouerkhet. Bonjour.
Bonjour, Caleb.
Vous êtes professeur à l'université Bordeaux-Montaigne et vous êtes aussi professeur associé à l'université Mohamed VI Polytechnique, au campus de Rabat. Et vous avez donc composé cette nouvelle biographie. Nous avons reçu il y a quelque temps le professeur Gabriel Martinez-Cros qui nous a parlé d'une anthologie de textes de cet historien et de ce penseur maghrébin, mais pas uniquement. Et vous, vous parlez à la fois de l'homme, de sa trajectoire de vie, de son œuvre et surtout de sa réception tant au niveau international que chez les arabo-musulmans, pour faire simple. Vous me disiez juste avant que nous commencions l'émission que c'est le penseur cardinal des BRICS. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à composer cette, pardonnez-moi si je dis, énième biographie? Je pense qu'Ibn Khaldoun mérite aussi, et c'est pour ça que j'ai dit à juste raison, qu'on se penche sur sa vie et que l'on ait davantage de biographes. Et vous, vous êtes un excellent biographe d'Ibn Khaldoun.
Merci. Alors évidemment, rajouter une sorte d'ouvrage supplémentaire à la forêt, à la jungle, des ouvrages consacrés à Ibn Khaldoun, qui lui sont dédiés, évidemment, ça nécessite de prendre la mesure de la démesure khaldounienne. C'est-à-dire que, plus que tout autre penseur, issu du monde arabo-islamique, il suscite l'intérêt, la passion, voire même l'obsession. Et donc, en ce sens, je me suis efforcé, en tout cas, je me suis assigné l'objectif d'essayer de voir quel avait été le contexte de production en tant que moi-même spécialiste de l'histoire du Maghreb. Entendu que Ibn Khaldoun est né au Maghreb, à Tunis, et qu'il a été amené, il a été conduit à cheminer, à voyager, à se rendre dans différentes régions du Maghreb et aussi en Al-Andalus, dans ce qui restait d'Al-Andalus à l'époque, soit plus ou moins l'interland de Grenade, avant, dans la seconde moitié de sa vie, de prendre le chemin de l'exil et de l'Égypte. Donc naturellement, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire voir ce que l'on peut dire du temps qui a été le sien, avec évidemment le propos qui est de ramener l'œuvre d'Ibn Khaldoun dans sa vie et non pas l'inverse.
Alors, nous aurons le temps, et je l'espère avec vous, de nous attarder un peu sur ce que j'ai appelé sa trajectoire de vie. Pour l'instant, restant dans ses préliminaires, pour ne pas dire ses prolégomènes, il est comparé au grand nom de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, on dit c'est de Thucydide à Machiavel, de Montesquieu à Marx, Arnold Toynbee, c'est en tout cas, il serait le fondateur de la science historique, le précurseur de la sociologie moderne. Émile Durkheim aurait été inspiré par son œuvre. On exagère un peu ou c'est la réalité?
Alors tout d'abord, cela nécessite de revenir aux conditions qui ont prévalu à sa découverte au XIXe siècle en Europe et plus précisément à partir d'une matrice parisienne. En effet, Ibn Khaldoun est le seul, entre guillemets, classique de l'islam, des penseurs au sens de penseur classique, qui n'ait pas été connu de l'Europe occidentale au Moyen-Âge. En effet, on peut estimer que sa découverte peut être située entre les années 1820-1860, autour d'un personnage charismatique qui a donné une qui a initié en fait ce travail de découverte et d'intérêt, et on peut parler du coup de d'un travail fondamental au sens premier du terme, c'est-à-dire Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, l'un des fondateurs de l'illustre école des langues orientales, d'une part, qui va réussir à regrouper autour de sa personne, autour de son aura et de son charisme, qui de l'aveu général était important et reconnu de tous, et il va mobiliser tous les aspects d'un savoir rationalisé, systématisé, encouragé et financé par l'État, puisque c'est de ça dont on parle, on est en pleine période positiviste. Et ça, c'est la matrice parisienne autour de ce qu'il est communément convenu de désigner comme étant la révolution scientifique, celle du positivisme, autour du personnage charismatique lui aussi d'Auguste Comte. Donc ça, c'est d'une part, c'est la matrice parisienne, européenne. Et aussi, Ibn Khaldoun va bénéficier, naturellement à son corps défendant, du fait qu'à partir de 1830, évidemment, les Français sont confrontés, avec la conquête de l'Algérie, à une altérité radicale qui, d'une certaine manière, confère les écrits de Tocqueville sur l'Algérie, leur impose...
Qui ne sont pas celles de l'Amérique.
Mais non, non, mais qui justement qui s'inscrivent dans le droit fil, parce qu'il vient en Algérie juste après son séjour américain. Et évidemment, par rapport à ça, ce que les Français vont entreprendre autour du cercle de Guizot. Guizot, c'est le premier ministre de Louis-Philippe, un des personnages clé de la monarchie de Juillet, et qui marque un tournant en ce sens que désormais il y a une forme de grande proximité savoir-pouvoir. C'est un des premiers intellectuels qui est aux affaires, qui gouverne, et il s'entoure de penseurs, de spécialistes, et c'est à ce titre-là que pour la première fois il va entendre parler d'Ibn Khaldoun, et c'est avec l'argent public plus précisément avec l'argent du ministère des Armées, qu'on va donner une somme conséquente à un des orientalistes, lui-même disciple d'Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, qui est d'origine irlandaise, qui va traduire d'abord la partie chronique, et dans un second temps la partie plus théorique, qui est véritablement celle qui va, dans un second temps au niveau mondial, susciter l'intérêt, entendu que toutes les élites européennes et même au-delà, déjà aux États-Unis, déjà aussi dans le monde arabe naissant, balbutiant de cette moitié du 19e siècle, on lit en français et on suit évidemment, si je puis dire, entre guillemets, ces modes intellectuels qu'initient depuis Paris les Français. Les Français au sens large du terme. Et c'est évidemment un des élèves, un autre disciple, lui, d'origine autrichien, qui va lui accoler l'épithète louangeur de Montesquieu arabe. Donc évidemment, Ibn Khaldoun part d'un état de fait, enfin sa réception, la réception de sa œuvre, la connaissance même de son nom, d'un parfait anonymat ou presque au début du 19e siècle, même si déjà à la fin du 17e siècle, le premier des grands orientalistes français, Barthélemy d'Herbelot, avait cité son nom dans la mesure où Ibn Khaldoun avait joui d'une grande fortune, d'une réception et d'une influence marquée dans les cénacles ottomans. Et il a connu aussi, on le verra, une grande fortune dans les cercles plus restreints de lettrés qui, au Maghreb, entretenaient évidemment tout un, si vous voulez, une dynamique, un mouvement, une vie des idées autour des principaux penseurs de l'âge classique de l'islam, si on peut l'appeler ainsi.
Bien. Alors, Mehdi Guirguet, vous dites que on ne connaissait pas avant le 19e siècle Ibn Khaldoun ou son œuvre, ou du moins très peu. Faisons donc connaissance, pour nos auditeurs qui le connaissent et d'autres peut-être qui le découvrent encore. C'est un homme du XIVe siècle et qui mourra au tournant du XVe. C'est normal qu'on ne connaisse pas celui qui était au Moyen-Âge, mais là, on est quoi, la transition Moyen-Âge, âge moderne. Il est né le 27 mai 1332 à Tunis. C'est quelqu'un peu de l'aristocratie tunisoise, une jeunesse plutôt d'une famille patricienne, même si on est dans des périodes troubles de tout le Maghreb. Et il naît à Tunis sous la dynastie Hafside.
Alors, il naît dans une famille qui se réclame, qui se revendique d'origine andalousie, de Séville. Sa famille aurait, parce que je dis bien, j'emploie le conditionnel, entendu que déjà l'un des grands et un des illustres biographes américains de Ibn Khaldoun, Franz Rosenthal, faisait à juste titre valoir que certainement cette famille a perdu toutes ses archives. Et lors de la poussée chrétienne, lors de ce grand mouvement de l'expansionnisme castillan, hein, qui donnera bien plus tard l'Espagne, et avec la prise de Séville en 1248 par Fernand III de Castille, et la famille d'Ibn Khaldoun qui possédait des biens, qui étaient déjà installés, lui-même avait des parents qui avaient joué un rôle, un rôle important dans la vie des idées au XIe siècle, qui est le grand siècle, des principaux penseurs, notamment des littérateurs très connus, à commencer par Ibn Hazm et d'autres. Et évidemment, Ibn Khaldoun appartient à une famille qui a pour tradition de servir les dynasties par le biais de la plume. Ce sont des hommes de lettres, et déjà son arrière-grand-père avait été principal ministre d'un des Hafsides. Donc les Hafsides, c'est quoi? C'est la dynastie à ce moment-là, au XIIIe, XIVe siècle, la plus puissante, celle qui est en mesure, d'une certaine manière, d'entretenir les meilleurs hommes de lettres, leur permettre de vivre dans un luxe relatif. Et à ce titre-là, déjà, il faut observer que le père d'Ibn Khaldoun avait refusé de servir la dynastie, entendu que lui-même était d'inclination mystique, soufi, et cela pouvait complètement aller à l'encontre de ce choix, le fait de servir une dynastie dont d'une certaine manière les biens pouvaient être sujets à caution, entendu qu'il existait toujours un doute sur la nature licite ou illicite des biens amassés, stockés par la dynastie, donc par la Daoula, qui n'est pas, en fait, contrairement à la mauvaise traduction qui a été donnée au XIXe siècle, qui n'est pas l'État, certainement pas. Et donc, Ibn Khaldoun, au contraire, va vivre dans sa chair, comme ses ancêtres avaient déjà vécu dans leur chair, le caractère, en fait, aléatoire de la faveur royale. C'est-à-dire que le jour où vous êtes promu, vous êtes couvert d'or, mais à tout moment, d'où le terme de daoula, de tourner autour, qui connote, en fait, contrairement au terme état, une instabilité, et je dirais même une forme d'instabilité chronique. Et évidemment, ça, c'est l'histoire de ses ancêtres, et ça va être d'une certaine manière la sienne, entendu que la place et le statut de l'individu est tout à fait relative dans cette période. L'individu s'inscrit dans une généalogie, une histoire familiale, une trajectoire qui, d'une certaine manière, fait que ou amène les ancêtres à déterminer la trajectoire d'Ibn Khaldoun. Donc Ibn Khaldoun, en ce sens, tranche parce que son père, certainement, lui a donné une forme d'éducation que l'on peut considérer comme étant originale, relativement originale, étant donné qu'il n'a pas été placé à la Zaytouna, qui était la grande mosquée et lieu d'enseignement au Maghreb, considérant son
doute. L'une, si ce n'est la plus vieille université au monde encore en activité.
Voilà, absolument, c'est ce qu'on dit, avec le Qaraoui Nafes,
juste après,
où Ibn Khaldoun est venu aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est le fait que, en restant chez lui, Ibn Khaldoun s'est placé et resté placé sous les mannes protectrices de son père, qui a fait venir mystiques, savants, à un moment où, pour des raisons politiques, tous les savants que compte le Maghreb et l'Andalus vont converger en direction de Tunis, et d'une certaine manière, cela va grandement profiter à l'éducation, à la formation d'Ibn Khaldoun, qui néanmoins va plus ou moins s'arrêter lors d'un événement extrêmement marquant, qui est un désastre, une double catastrophe qui intervient quand il a à peu près 16-17 ans. Donc on est là en 1348. D'abord, c'est la peste noire, hein, qu'il qualifie lui-même, et je pense que le lexique qu'il utilise, le vocabulaire est tout à fait significatif, il est parlant en soi, puisqu'il parle de Motl Eswed, donc la mort noire. Il parle également...
Qui lui ravit sa mère et puis son père.
Taol Jerif, donc la grande peste, qui lui ravit, effectivement, comme vous le mentionnez, tout son milieu, tout ce qui constituait sa vie quotidienne, à savoir ses parents, une partie de sa fratrie, ses maîtres. Oui, extrêmement important, même si on a peut-être un petit peu exagéré le fait que son éducation, sa formation serait restée incomplète du fait du désastre et de la dilatation, de la décomposition qu'entraînait cette catastrophe dont on a réévalué récemment l'ampleur, l'impact, puisqu'on estime qu'entre la moitié et le tiers de la population aurait disparu dans un laps de temps compris entre 2 et 3 mois. C'est pour vous donner une idée de l'ampleur de la catastrophe et du désastre entraîné.
Alors, je voulais pas vous interrompre et je ne veux même pas anticiper sur la suite, mais vous avez évoqué son père qui répugnait, en tout cas pour des considérations éthiques, et surtout en ce qui concerne les biens amassés par les dynastes hafsides cette fois-ci. Il se trouve que plus tard, lorsque Ibn Khaldoun lui-même va à Séville, Pierre Ier de Castille se propose de lui restituer ses biens ou les biens de sa famille. Il en jouit un peu, mais il les refuse in fine parce qu'il ne veut pas rester à la cour de Pierre Ier de Castille.
Tout à fait, et on a la chance, grâce à la numérisation, grâce à Internet, d'avoir accès directement à un document exceptionnel, c'est le Repartimiento, c'est-à-dire l'archive qui permettait de, le document officiel émis par la chancellerie castillane, qui permettait de savoir qui possédait quoi. Les biens, et on connaît ainsi les biens que possédaient les Ben Khaldoun, donc cette famille-là, hein, qui possédait des biens importants dans le cadre de la production d'huile d'olive. Donc, et on sait avec certitude qu'au moins 2 villages dans la région de Séville, alors plus grande productrice d'huile d'olive du monde, portaient le nom des Ben Khaldoun, et on sait également ça grâce à des chroniques rédigé à l'époque al-Muhad, hein, notamment le Menbel Imam, hein, que les Ben Khaldoun avaient un bien situé stratégiquement à côté du palais et de la grande mosquée que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Giralda. Donc évidemment ça, et mentionner aussi également que on a découvert dans les années 40, hein, donc c'était le grand orientaliste français Évary Lévy Provençal, a découvert dans les archives, dans ce que lui même qualifiait de soupe de grimoire, lui et Jacques Berck, l'autre son alter ego et suiveur héritier d'une certaine manière, un manuel de chancellerie composé par son arrière-grand-père, c'est-à-dire à la fois l'idée de bien écrire et de manier l'adab, tout à la fois littérature, politesse et culture avisée encyclopédique, et aussi qui était d'une certaine manière un miroir au prince, c'est-à-dire qui comportait un certain nombre de conseils que l'homme de lettres, le courtisan, se devait de donner à son prince, d'une certaine manière, l'éclairer dans les choix qu'il devait faire.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de ce génie, peut-être que le mot n'est pas exagéré en tout cas dans ma bouche, qui est Abdelrahman Ibn Khaldoun, avec son biographe Mehdi Kouirket, professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Pour cette deuxième partie, nous parlons toujours à la fois de la trajectoire de vie, puis on verra comment il va se mettre à écrire, et apparemment écrire d'un seul tenant son œuvre monumentale, le livre des exemples et surtout ses prolégomènes. Le jeune homme tunisois qui est un notable, j'ai dit un patricien, va être confronté à la mort noire, à la peste noire, la mort noire comme il le dit lui-même. Comment son apprentissage, sa formation va se faire dans ce contexte morbide? Il commence ses voyages, il perd ses maîtres, sa famille. Et comment vit-il en ce moment?
Très tôt, étant donné que la plupart des serviteurs traditionnels de l'État sont morts, disparus, le pouvoir Hafside est à la recherche de serviteurs de plume, et d'une certaine manière, cela va contribuer, cela va servir Ibn Khaldoun, qui à un âge même plutôt jeune pour les carrières, hein, les carrières que l'on entamait dans les arcanes du pouvoir dans les mondes islamiques, à 17-18 ans, déjà, il arrive à trouver une place auprès du principal ministre de cette époque, qui s'appelle Ibn Tefreguin, hein, donc d'une famille originaire donc du sud du Maroc, et qui est venu avec la grande poussée al-Mouhad et qui s'est installé à Tunis. Et il va le servir, et c'est le début d'un apprentissage essentiel, fondamental, dans la mesure et compte tenu qu'il va être chargé, en plus des lettres de chancellerie qu'il va commencer à rédiger, puisqu'il y a une dimension technique et un savoir-faire qui se transmettait au sein des familles, et dans les, également dans les médersas. Hein. Et évidemment, c'est une pratique qu'il a déjà, un savoir-faire aussi qu'il va sans doute conforter, qu'il va sans doute consolider au cours de ses plus de 20 ans de carrière dans les arcanes du pouvoir, au service de
plume. En gros, de 20 ans à 43 ans, un peu voilà, plus que ça, 20 ans, il est commence par être un scribe, mais ça ne lui plaît pas. En tout cas, son ambition n'est pas de rester à ce rang-là, et il gravit un peu les...
Alors, on peut tenir pour assurer le fait qu'il a très tôt, très jeune, ambitionné, hein, le fait de gravir tous les échelons et de devenir principal ministre, ce qu'il n'arrivera à ses fins, si je puis dire, qu'à Bougie et à Bjaïa, que pendant 8 mois, ce qui est relativement peu, mais dès très jeune, dès l'époque où il est au service d'Ibn Tefreguin, il est contraint de quitter le cadre feutré de la capitale, qui était son milieu ambiant, hein, là où il pouvait, où il avait la possibilité de fréquenter ses pairs, hein, et de fréquenter le monde de la Badawa. Parce que déjà, il se retrouve.
La bédouinité, en fait.
Voilà, la bédouinité, le monde rural, le monde des tribus arabes qui sont des nouvelles venues à ce moment-là au Maghreb. Et il se retrouve dans la région du Constantinois, déjà mandaté pour négocier avec ces tribus. Et c'est au cours de cette occasion qu'il va commencer ce très dur, cet âpre apprentissage, qui est celui de négocier avec les principaux éléments constitutifs des armées du Maghreb, que sont les Bédouins arabes, Benou Hillel ou Benou Souleym, et qu'il va apprendre à connaître, entendu que ce sont pour lui, pour son milieu originel, de parfaits étrangers.
Sa vie elle-même, cette trajectoire de vie est si dense et pleine qu'on ne peut que l'aborder que par touche, d'une manière impressionniste, si je puis dire. Et donc, pardon si je ne vais pas dans la linéarité des choses. Donc, je cite simplement, ou je vous demande, si vous voulez bien y répondre, quelques aspects d'abord de ses pérégrinations. Il va aller dans les grandes métropoles du Maghreb, et y compris de ce qui reste de l'Andalousie musulmane. Quand il va à Grenade, il est plutôt dans un premier temps bien reçu par le souverain, et il y trouve...
Alors il vient se placer sous l'égide de celui qui est à la fois son mentor, mais aussi d'une certaine manière son concurrent immédiat et adversaire, le Sendin ibn Khatib.
Oui, et dont il ne pourra pas l'aider, hélas, pour le sauver d'une mort certaine après. Voilà. Mais donc, alors, qui est le Sendin ibn Khatib pour nos auditeurs?
C'est un vizir grenadin, homme tout à fait remarquable, considéré de son vivant même comme exceptionnel comme extraordinaire, un manieur hors pair de la langue arabe, auteur de très nombreux ouvrages dont un grand nombre nous ont été conservés, notamment un traité sur la peste, hein, qui certainement a influencé le jeune Ibn Khaldoun à considérer la peste comme un tournant majeur et comme le fait que le monde ancien, hein, avec ses autorités, avec ses ouvrages, ses auteurs, aussi remarquables, aussi admirables soient-ils, appartiennent au passé, sont complètement caduques, obsolètes, dépassés. Alors quand il vient à la cour de Grenade,
il est chargé d'une ambassade.
D'une ambassade auprès de Séville, c'est le seul moment dans sa vie où il est directement confronté, hein, de première main, si je puis dire, au pouvoir chrétien. Et là, il a une réflexion unique, tout à fait originale, grâce à Saint-Din Ibn Khatib et également à un ministre juif qui va faire comme Ibn Khatib, d'une certaine manière, carrière dans ce grand triangle constitué par Fès, Grenade et Séville, donc à cheval entre Al-Andalus, le Maghreb, hein, plus ou moins le Maroc d'aujourd'hui, et le monde nouvellement chrétien, qui est celui de Séville, eh bien, il a eu connaissance d'un phénomène majeur qu'il va consigner dans son récit d'allure autobiographique, où il a justifié son ambition absolument folle, démesurée pour cette époque, en tout cas unique, de fonder une science nouvelle. Et il parle du monde chrétien en une page et demie, où il dit la chose suivante. D'abord, il adopte un critère d'ordre qualitatif. Il dit, j'ai ouï dire que les sciences rationnelles, à commencer par la philosophie, connaissent un essor extraordinaire dans l'Europe des franges, c'est-à-dire l'Europe occidentale, principalement de langue latine. Alors même, bien sûr, c'est toujours dans le cadre d'une histoire comparée par rapport à sa terre d'origine, le Maghreb, puisque dans un premier temps, c'est ça principalement qui l'intéresse. Et dans l'autre critère dont il se sert, dont il tient compte et à partir duquel il va tenir un raisonnement, il affirme désormais en mer Méditerranée une lauha, donc une planche, par métonymie cela renvoie à la flotte de guerre, une lauha musulmane ne peut plus flotter en mer Méditerranée. Entendu que la domination de la mer et donc l'hégémonie appartient désormais aux chrétiens qui sont en pleine croissance, alors même que, de son avis, selon lui, le monde islamique a entamé un déclin irréversible. Il y a évidemment une dimension sombre, noire, et ce qu'on peut en dire également, c'est qu'il a été amené à fréquenter les arcanes du pouvoir de toutes les dynasties qui se partagent à ce moment ce qu'on appelle l'islam d'Occident. Hein, il est allé tour à tour à Fès, où il a connu.
Quelles sont ses fortunes et infortunes chez les Mérinides à Fès ?
Alors, il a connu, d'une certaine manière, un début de bonne fortune, mais il a surtout connu des revers. Hein, il a été disgracié et il a sans doute très maladroitement, parce qu'il est encore jeune à ses débuts, tout du moins, trempé dans un complot ourdi contre le sultan Abu Aynan. Et en fait, il a été jeté dans les geôles et au lancé grâce au
Il y est resté pratiquement 2 ans.
Grâce au Nawazil, que les conditions d'incarcération étaient extrêmement pénibles et dures. Donc Ibn Khaldoun, quand il pense au pouvoir, quand il pense aux politiques, et avec son regard d'une ampleur remarquable, sur son regard qu'il porte sur la civilisation, il faut savoir, il faut tenir compte qu'il a passé 2 ans et demi chargé de fer dans des cachots, et évidemment, ça a certainement contribué à forger sa vision.
Et à ce qu'il ait un regard plutôt noir, j'allais dire, sur son époque. Continue un peu ses pérégrinations, oui. Il va à Tlemcen.
D'abord à Grenade.
À Grenade.
Où finalement, sa relation avec Ibn Khatib va, d'une certaine manière, tourner au vinaigre.
À cause de la jalousie.
Probablement parce que le pouvoir ne se partage pas, avec ce personnage un petit peu fantasque et charismatique. Ibn Khatib, on dit de lui qu'il était Dhul Umrayn parce qu'il était insomniaque, la journée étant consacrée aux affaires de l'État et la nuit plus ou moins à l'écriture d'une œuvre qui a marqué son temps. Il prend la route.
C'était aussi un grand poète.
Tout à fait. Il est resté dans les mémoires parce que c'est à ce titre-là que l'essentiel de ces ouvrages ont été conservés. Et jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la période coloniale et un peu après au Maroc, il est considéré comme l'homme de lettres par excellence. D'ailleurs, le roi Mohamed V, quand il revient d'exil de Corse et de Madagascar, quand il revient au Maroc, son premier geste va être de construire autour de la tombe supposée de Mu'tamid ibn Abed, donc il y a un autre roi de Séville exilé et mort dans la région de Marrakech, hein, un mausolée avec les vers d'Ibn Khatib absolument partout, parce qu'il est le penseur de la poésie arabe, il est le poète arabe, et donc avec une forme de nostalgie inhérente, évidemment, à la composition de vers.
Bon, maintenant, revenons donc à son passage à Tlemcen. Nous avons parlé de bonne fortune et d'infortune. Il doit quitter cette capitale.
Et... Alors d'abord, il est passé par Bougie.
Oui.
C'est là, donc il a fait Grenade-Bougie, donc avec l'axe Almeria ou Bougie. Et là, Bougie, il pense avoir atteint son but, c'est-à-dire il est principal ministre. Il fait venir auprès de lui son frère pour le seconder. Et là, patatras, il est obligé de... le sultan qu'il soutient, qui est un sultan hafside, perd la guerre face à son autre parent. Et il est obligé de négocier, hein, et de s'enfuir en direction, une première fois, de Biskra, donc Ngaos Biskra, donc dans la région qu'on appelle le Zab. Et c'est la première fois qu'il va fréquenter assidûment et dans la longue durée les Bédouins. Ensuite, il va
aller...
Kilonor. Alors, Kilonor, mais lui-même va garder un souvenir mitigé, avec toujours une ambivalence, une ambiguïté qui le caractérise, hein, dans ses écrits dédiés aux Arabes. Par arabe, il faut entendre principalement les arabes bédouins de cette époque qui sont en passe de monopoliser au Maghreb central le pouvoir, hein, le pouvoir politico-militaire, hein, qui leur appartient, puisqu'ils sont en position de faiseur de roi, d'arbitre. Et évidemment, ce que l'on doit retenir, ce que l'on doit absolument garder à l'esprit, c'est que de tous les penseurs classiques de l'islam, Ibn Khaldoun est, d'une part, celui qui sans doute qui a pu le voyager, pu le plus voyager, qui a été amené à connaître un territoire, donc je me suis efforcé à tracer la carte, et il en ressort que le territoire qu'il connaît le mieux, hein, puisque évidemment à l'époque on chevauche, hein, il a même connu les affres, hein, de la rencontre avec les coupeurs de route, et même il a eu son cheval tué sur lui, et vous savez, souvent quand vous étiez détroussé, vous perdiez également votre monture et vos habits, et donc il est resté 3 jours et il a été contraint de manger un cheval mort. Mais ce que je veux dire par là, il connaît principalement le Maghreb central, la partie nord du Maroc, donc de Fès jusqu'au détroit de Gibraltar, et également, on l'a évoqué tout à l'heure, Grenade. Donc ça, et il a été amené à faire des milliers et des milliers de kilomètres à cheval. Donc c'est un territoire qu'il a parcouru, qu'il connaît. Bien sûr, il faut mettre de côté, donc exception faite, les grands voyageurs de l'islam qu'on connaît, hein, Ibn Battuta en tête. Oui. Mais aussi, autre dimension à prendre en compte, il a été amené à nouer des relations de sociabilité, hein, à s'installer durablement dans ce monde de la Badawa, le monde rural, au monde de la bédouinité, monde premier, si on s'en tient au système dialectique, hein, au raisonnement khaldounien qui s'était forcé de créer, de forger, hein, d'échafauder. Et par rapport à ça, donc Biskra, ensuite Tlemcen, donc chaque fois il est amené à remonter en direction du sud d'Alger, le Badha, toute la région de Chlef, hein, qu'il connaissait très bien sans doute, et puis ensuite Tlemcen. Et évidemment, c'est là où intervient le tournant, puisque il sent bien qu'il ne peut plus, il n'a plus la possibilité, d'une certaine manière, d'assouvir l'ambition qui était la sienne, sans doute depuis sa tendre jeunesse, celle de devenir le personnage principal de la dynastie. Et au lieu de tenter une énième fois un renversement d'alliance, en partant en Fès ou ailleurs, eh bien, il fait le choix de reprendre langue, de reprendre contact avec des chefs arabes qui habitaient dans des forteresses, où ils résidaient dans les forteresses qui servaient à amasser leurs biens, dans les hauts plateaux de l'Oranie, non loin de l'actuelle ville de Tiéret, donc à côté de Farenda, et donc Farenda, ville natale de Jacques Berck. Oui. Et c'est là où il va, et je me suis également intéressé à ce lieu, puisqu'il a été reconnu par des missions archéologiques menées principalement par des archéologues espagnols.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons encore une fois d'Ibn Khaldoun. L'homme fascine, il est d'une telle densité à la fois doctrinale et de production scientifique, mais aussi d'une expérience humaine. Et il a connu les deux extrémas, l'extrémum de la condition la plus humble quand il était en disgrâce, et puis, même si ce n'était que pour 8 mois, d'être pratiquement le premier personnage, si ce n'est de l'État, au moins de la cour. C'est Mehdi Guirguet qui nous parle d'Ibn Khaldoun, professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Pour cette dernière partie, quand il a désespéré, si je puis dire, d'être un homme politique et un homme d'État, sa vie durant, il va passer plutôt cette fois-ci du côté de la production intellectuelle. Et peut-être encore quelques mots sur cet élan créatif dans cette forteresse dite Ibn Salama. Et si vous voulez bien, Mehdi Guirguet, parlons cette fois-ci de son départ pour l'Orient et notamment pour la ville du Caire.
Alors il va, bon gré mal gré, bénéficier d'un retour en grâce. Alors avec la condition expresse de ne plus tremper dans les complots multiples et variés et de ne plus faire de politique, hein, puisque évidemment c'est un petit peu ça dont il s'agit. Mais il va sentir sans doute le vent tourner face à celui qui va incarner la culture lettrée de ce XIVe siècle avec une prépondérance marquée de la jurisprudence du fiqh, qui est Ibn Arafa.
Qui est aussi son rival et qui apparemment aurait, ourdit un complot. Il pousse un étudiant à lui poser une question sur ce que nous appellerions aujourd'hui l'évolution. Parce ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, Ibn Khaldoun parle de l'homme quasiment descendant du singe, ce qui paraît anachronique de nos jours, mais pour lui, c'était une anticipation. Il était précurseur de cette théorie de l'évolution, dit-on.
Alors évidemment, la réputation, c'est toujours, vous savez, l'accumulation des malentendus qu'on porte sur son dos. Quoi qu'il en soit, il revient à Tunis et là, il sent qu'il est acculé. Et Tunis est en ce moment-là, du fait du contrôle de la Méditerranée par les cités-états italiennes, vous avez de nombreux navires, des nefs, qui sont là, qui viennent de la mer Noire jusqu'à Gibraltar et jusqu'au Portugal. Et il s'embarque en direction d'Alexandrie et d'Alexandrie au Caire en prétextant...
Non mais pardon pour l'anecdote, quel est son... est-ce une légende ou quel est son bien fondé lorsque cet étudiant...
Je la trouve un peu douteuse. Personnellement, j'ai quelques doutes. Alors, Ibn Arafa, on a cherché, mais on ne trouve pratiquement aucune trace directe. Ibn Arafa a laissé une œuvre pléthorique, hein, de plusieurs milliers et milliers de pages.
C'était le grand mufti.
Mufti, voilà, c'est celui qui va un petit peu contribuer, dit-on, c'est là aussi sa réputation, à dessécher la vie intellectuelle de son temps. Hein, vous avez de Jacques Berck à plus récemment d'autres encore qui ont versé des larmes chaudes sur la prépondérance du droit qui aurait évidemment étouffé la philosophie qui avait connu une certaine forme d'âge d'or, si tant est qu'on puisse penser le monde ainsi, mais on l'a essayé de le traîner dans la boue, de le calomnier, et cette histoire du singe, évidemment, elle fait rire. En fait, elle est amenée. Alors ça, c'est l'aspect, si je puis dire. Mais c'était grave. Hein. C'est une accusation grave. Mais plus grave encore, la plus grave des accusations portées à son endroit par les disciples d'Ibn Arafat, c'est le fait qu'il aurait eu une connaissance approximative du droit. Parce que puisque vous aviez une connaissance, supposément, défectueuse du droit, du fiqh, vous n'étiez plus habilité à penser ou à dire quoi que ce soit. Vous ne pouviez en aucun cas être une autorité et de ce fait, vous n'aviez plus droit au chapitre. Donc évidemment, cette
même
question...
s'il connaissait le Coran par cœur, corpus...
il a un attachement viscéral à l'islam et au malikisme. Puisque le malikisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi l'islam caractéristique de l'Occident musulman et du Maghreb et d'Al-Andalus. Donc évidemment, par rapport à ça, son attachement est sans foi et même, si je puis dire, il a peut-être été un peu zélé. On sait par ailleurs que quand il s'est rendu au retour de son voyage de Damas à Jérusalem, les Maghrébins nombreux qui, en revenant du pèlerinage, en revenant du Hajj, se rendaient à Jérusalem, visitaient généralement le Saint-Sépulcre. Et Ibn Khaldoun aurait refusé, évidemment, alors tout en sachant que quand il avait rencontré le roi de Castille, le monarque chrétien par excellence, le Castillan d'ailleurs jouant le rôle de truchement pendant longtemps pour les Maghrébins, puisqu'on a des termes castillans connu par Ibn Khaldoun, sans doute grâce à Ibn Khatib et Ibn Zarzar, le vizir juif, il refuse de faire ce que faisaient la plupart des auteurs musulmans, c'est-à-dire, vous savez, c'était une figure de style imposée, mais qui était néanmoins significative, de maudire. Par exemple, de dire le roi de Castille, l'anatullah alayh, que Dieu le maudisse.
C'est une sorte d'appel, d'une exécration ou un terme imprécatoire.
Ou bien attribuer un qualificatif peu louangeur, en tout cas extrêmement dépréciatif en fait. C'est généralement les rois de Castille, on les appelait l'aqra, c'est-à-dire le chauve, ou bien l'homme au bas de d'âne, Abu Burda, etc. Ou vous avez d'autres
colibés.
Et lui refuse de le faire parce que dans le cadre de la diplomatie, on se doit de tenir un ton neutre, si ce n'est mesuré. Donc évidemment, ça, je crois que c'est un point important.
Alors maintenant, allons, si vous voulez bien, parce que je vous ai interrompu. Il embarque pour Alexandrie.
Donc, au Caire, et là, il trouve à se faire progressivement et graduellement, si je puis dire, employé par le sultan fort des Mamelouks. Donc les Mamelouks, ce sont ces esclaves anciennement soldats qui constituent une élite militaire, des spécialistes de la guerre, des spécialistes de la violence, qui sont des étrangers dans ce pays. À ce moment-là, c'est la première fois qu'on a c'est le début de ce qu'on appelle les Mamelouks circassiens, originaires du Caucase. Et là, vous avez le sultan Balkhor, avec qui il va nourrir des liens forts. Parce que Ibn Khaldoun a cet avantage au Caire d'avoir été un connaisseur hors pair des arcanes du pouvoir des différentes dynasties du Maghreb, et pour entretenir une correspondance nécessaire avec les pouvoirs de l'Occident de l'islam, on va faire appel à lui, même si il va trempé dans un dernier complot qui, en fait, va amener à l'emprisonnement de son bienfaiteur, le sultan Balkhor. Et là, il est sans doute peut-être mal inspiré. Alors, plus tard, il se défendra en disant qu'il a été contraint et forcé de signer l'acte d'allégeance du sultan qui lui a ravi le pouvoir par le biais d'un... qu'on peut qualifier d'un putsch, de coup d'État, même si le terme est anachronique. Et là, il va être tenu en grande suspicion. Bien que grand, alors il va pas arrêter toute sa vie durant d'être nommé, ensuite destitué. Et sur la fin de sa vie, certainement la tendance mystique ou son attachement indéfectible à la fois à l'islam mystique et au malikisme va se renforcer. Et il est envoyé à ce moment-là contre Tamerlan, avec une armée mamelouque, Pourquoi envoyer Ibn Khaldoun? Probablement parce qu'on on a peur de lui. Alors, que cherchent au juste les Mamelouks? À rééditer la geste du sultan Baybars qui avait arrêté, là aussi, cette grande force venue de l'Est, venue de l'Orient, les Mongols. Et là, on cherche à rééditer cet exploit en bloquant Tamerlan, donc cet homme venu des steppes d'Asie qui se faisait fort de cumuler des pyramides de tête, donc il assiège Damas.
Qui est à la fois une force régénératrice, mais aussi un fléau et
tout à fait.
Et une puissance terrible. Mais peut-être parce qu'on pensait que Ibn Khaldoun était un fin diplomate, un diplomate hors pair et qu'il allait sauver au moins la ville de Damas.
C'est comme ça qu'il s'est présenté, mais on a des doutes parce que là, pour le coup, on dispose d'autres sources qui ne disent pas ça. Ce n'est pas ce qui est avancé. Alors, ce qui est mis en évidence, c'est le fait qu'il est assiégé à Damas. Il y a sans doute déjà des espions de Tamerlan qui ont eu vent de la présence de Ibn Khaldoun, qui est célèbre. Il a quand même joui d'une certaine réputation.
Déjà de son vivant.
Et il est descendu, dit-on, dans un panier depuis l'enceinte, depuis les remparts de Damas. Et il se rend au camp de Tamerlan. Et là, on dit que c'est un coup de foudre réciproque. En tout cas, Tamerlan, comme avant lui le sultan de Delhi qui avait accueilli Ibn Battuta, connaît l'histoire de l'Occident musulman et sait qu'à un moment donné, au cours de la période d'Almohad, les Almohades, donc la grande dynastie qui a la seule qui ait jamais unifié la totalité du Maghreb et de l'Andalous, c'est devenu cette puissance un peu légendaire qui plus est, elle est réputée avoir entravé l'expansionnisme des chrétiens, et c'est pour cette raison que Tamerlan lui aurait ordonné donc la rédaction d'un opuscule dédié à l'histoire du Maghreb. En tout cas, cette rencontre, elle va bien se passer pour Ibn Khaldoun, déjà parce qu'elle arrive à survivre, et surtout à rentrer dans les bonnes grâces de Tamerlan, qui aurait voulu, dit-on, l'amener avec lui dans son voyage de retour où il va très vite trouver la mort. Et plus tard, la première fois que les Européens entendent parler d'Ibn Khaldoun, c'est par le truchement de cette histoire, de cette rencontre extraordinaire. Et bien plus tard, la réputation est fondée, est assise d'Ibn Khaldoun. Malraux, quand il évoquera sa rencontre avec le général de Gaulle, peu avant que le général de Gaulle disparaisse, va se placer sous la protection de ce qui constitue à ses yeux un précédent, la rencontre entre Tamerlan et Ibn Khaldoun, a entendu que il n'y a rien de tel, pas de précédent, pas même Goethe avec Napoléon, dit-il. Seule la rencontre entre Tamerlan et Ibn Khaldoun, expliquer les tenants et les aboutissants jusqu'à un certain point de cette rencontre.
Bien. Peut-être deux mots encore, puisque nous nous approchons du terme de l'émission. Il a vécu, et sa tendre enfance à Tunis, qui était déjà la ville la plus importante, avec, dit-on, 100 000 habitants. Et là, le Caire va surclasser Tunis, et il est là plutôt reconnaissant. Alors, de la civilisation.
Dans un raisonnement qu'aurait pu tenir Ibn Khaldoun, toujours il existe un effet cause-conséquence, une sorte de corrélation entre le niveau de production agricole et le niveau de puissance politique d'une dynastie et la taille de sa capitale. Et en ce sens, le Caire au XIVe siècle, au XVe siècle, est la plus grande capitale de l'islam, sans conteste. Et Ibn Khaldoun, certainement une fois installé au Caire, a peut-être un peu revu la vision extrêmement pessimiste qui était la sienne, l'idée que la civilisation qui a en trois temps, donc enfilant la métaphore du corps humain avec la naissance, l'âge adulte, puis ensuite la vieillesse et la mort, le Caire ne rentre pas vraiment dans ce schéma-là, puisque au Caire vous avez encore une dynastie puissante et donc avec un cercle vertueux, un tefennoun, un temeddoun, c'est-à-dire à la fois un processus de civilisation, de diversification création remarquable de l'artisanat,
des arts,
et que permet, en fait, on dirait aujourd'hui, à tort ou à raison, une théorie du ruissellement, puisque l'argent donc capté par l'impôt, grâce donc à la force militaire qui exerce la dynastie, permet à la grande capitale, avec ses monuments remarquables, ces monuments qui sont toujours à l'image de la puissance d'une dynastie donnée, eh bien, d'exister en tant que telle. À savoir que les monarques, les dynasties, sont toujours des maîtres des stocks et possèdent le plus d'esclaves, le plus de céréales, le plus d'or et aussi le plus de serviteurs éminents prêts à les servir, ce qu'a été Ibn Khaldoun pratiquement pendant toute sa vie.
Bien, alors, pour boucler la boucle, parlons maintenant de sa réception, aussi bien au Maghreb ou dans les contextes islamiques, comme on le dit maintenant, et aussi un peu partout de par le monde, et particulièrement en Occident. Délibérément, nous n'avons pas parlé de l'œuvre, mais plutôt de l'homme. Et qu'en est-il justement de cette réception maintenant ?
Alors, c'est une réception extraordinaire. Puisque Ibn Khaldoun est devenu un véritable article de la mondialisation, avec une inflation remarquable des publications
on étudie
de qualité
son
inégale.
Au Brésil.
Alors, il y a une différence entre la lecture d'Ibn Khaldoun dans ce qu'il est, ce qu'on appelle les BRICS ou le Sud émergent, les Sud émergents, puisque là, il est le seul auteur susceptible de tenir la comparaison avec les grands auteurs européens, on va dire de Spinoza, Kant, Descartes, Pascal, jusqu'à Foucault en fait. Et évidemment, par rapport à un monde qui a connu la colonisation, cette flétrissure narcissique, comme l'avait qualifié Malek Ben Nabi, évidemment, Ibn Khaldoun permet d'affirmer que c'est bien depuis les Suds et le monde musulman et en arabe qu'ont été inventées, supposément, c'est toujours là aussi un aspect problématique, les sciences humaines. Au XIXe siècle, on pensera que ce sont l'histoire positiviste, l'histoire rationalisée, systématisée, l'histoire véritablement science, la sociologie, l'ethnologie et plus récemment, depuis les années 70, l'économie. Et c'est à ce titre-là qu'il est cité. Il a été cité par Ronald Reagan, par Boris Johnson, par Mark Zuckerberg, évidemment, et aussi en politique. Par exemple, pour se faire l'avocat d'une diminution de la charge fiscale, compte tenu que Ibn Khaldoun aurait affirmé que la charge fiscale amène le déclin, la décrépitude d'une civilisation donnée, de toute civilisation. Et évidemment, tout le monde aujourd'hui, en malais, en ourdou, en arabe, en farsi, la traduction portugaise a été donnée par un syro-libanais installé au Brésil, et qui fait qu'Ibn Khaldoun y jouit évidemment d'une très très solide réputation, évidemment, puisque encore une fois, c'est le seul auteur mondialisé qui ne soit pas exactement issu de l'Occident et des mondes où le français, l'allemand, l'anglais ont dominé.
Merci, merci infiniment, merci Mehdi Kouirket d'être venu nous parler avec passion d'un homme passionné lui-même et passionnant, d'Ibn Khaldoun. Vous lui consacrez une biographie qui fait autorité maintenant et avec un sous-titre itinéraire au pluriel, vu ses pérégrinations d'un penseur maghrébin et qui est en passe d'être un penseur d'un génie universel, sans exagération aucune. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et vous la retrouverez comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bruno Mourlan. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.